France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Tapis, le sale gosse. Chapitre 1. Au mec sympa, tout sera pardonné. Autant vous le dire tout de suite, j'ai longtemps trouvé Bernard Tapie extrêmement sympathique. En réalité, j'ai même envie de dire que Bernard Tapie est extrêmement sympathique, avec le verbe « être » qui signifie le fait et non pas l'opinion. Prenons la définition du dictionnaire pour vérifier cette affirmation. Sympathie, penchant naturel, spontané et chaleureux de quelqu'un envers une autre personne. Avec cette définition en tête, je crois qu'on peut affirmer que Tapie provoque envers lui un élan spontané et chaleureux, sauf pour ceux, bien sûr, qui ont été en affaire avec lui, car cet homme n'envisageait son rapport aux autres que s'il en sortait gagnant. Eh bien, ce penchant naturel et spontané envers lui, c'est exactement ce que l'on ressent en écoutant ses archives, les anciennes, je veux dire, celles d'avant son passage au ministère. Je précise cela parce que, après, quand il devient ministre, il commence à mettre dans ses discours une certaine langue de bois, alors qu'il disait toujours que lui, au moins, il parlait vrai. Eh bien non, comme la plupart de ceux qui disent qu'il parle vrai, il faut toujours comprendre qu'il parle vrai, jusqu'à un certain point seulement. Et puis il y a les affaires qui le rendent encore moins sympathique, sans parler de son peu de soucis pour l'argent du contribuable, lui qui a laissé derrière lui, à sa mort, un passif de 650 millions d'euros de dettes auprès du service des impôts. Et pourtant, même si on sait que Tapie n'a jamais eu peur de mentir, de trahir, d'arnaquer, de frauder, ni même de mettre en danger autrui jusqu'à provoquer sa mort, eh bien même en sachant cela, on a du mal, en écoutant ses archives, à ne pas le trouver quand même un tout petit peu sympathique. Dans cet épisode, nous allons justement essayer de comprendre pourquoi beaucoup de gens ont envie de lui pardonner beaucoup de choses et pourquoi nous avions envie de l'écouter à la radio les jours où il y passait, et cela même quand il n'était pas de bonne humeur.
En effet, c'est la suite de l'oreille en coin, toujours avec le public du studio 105. Bonjour Bernard Tapie. Je sais que vous avez eu une folle nuit, mais enfin tout à fait raisonnable, je ne dévoile pas de secret. Vous êtes rentré 4 heures du matin de Lens, c'est ça?
Ouais, et de mauvaise humeur.
Bah oui, pas de très très bonne humeur, c'est ce qu'on vient d'entendre là au journal. Enfin, vous nous parlerez de ça, parce que pour l'instant, on va quand même parler de vous avant. Vous êtes un cas.
J'ai pas de papier, moi.
Si, attendez, on va vous donner un crayon. Vous n'avez pas le papier, mais voilà déjà le crayon.
Des papiers, des trucs, moi j'ai rien.
C'est pas juste, attendez. Voilà, allez, vous avez, voilà un papier. Voilà. Ah, mais c'est drôle.
Il aurait fallu racheter une imprimerie.
Bernard Tapie, le sale gosse. Une série en 6 épisodes de Mathieu Garrigou-Lagrange. Réalisation Delphine Lemaire. Attachée de production Lily Cornaer.
Tapie a réussi à envoûter la France au point qu'on a sculpté pour lui, en mai 2025, rien moins qu'une statue de bronze à Marseille. C'est une chose devenue assez rare de nos jours, vous en conviendrez, d'ériger des statues en bronze à qui que ce soit, d'autant plus quand il s'agit d'un repris de justice. Concernant ce mystère de notre fascination pour lui, mon hypothèse est la suivante. Tapie était apparemment proche des gens, à l'aise dans toutes les circonstances, égal à lui-même, sur scène comme à la ville. En apparaissant comme cela, toujours motivé, toujours énergique, il donnait à tous l'impression que la vie valait la peine d'être vécue. C'était comme s'il avait craqué le code du bonheur, comme s'il suffisait de faire comme lui pour ne plus jamais s'ennuyer dans la vie. C'était comme s'il nous sortait de la mesquinerie, par exemple celle de ne rien acheter quand on n'avait pas d'argent, parce que Tapie, lui, il n'attendait pas d'avoir de l'argent pour le dépenser, ce qui est une liberté que nous ne sommes pas si nombreux à nous accorder. Pour lui, tous ces chiffres n'étaient que des chiffres, et les chiffres, il savait les faire parler dans la langue qui était la sienne, une langue qu'on ne comprend pas vraiment, mais qui est belle, un peu comme un chant d'oiseau. Il était à la fois le capitaine Fracasse, Cyrano et D'Artagnan. Dans la vie comme sur un terrain de football, il était adepte du beau jeu. Alors oui, on avait envie de le trouver sympathique, son apparent bonheur de vivre rejaillissait un peu sur nous-mêmes. Le problème, c'est que pour arriver à croire à ce mirage, il fallait aussi fermer les yeux sur quelques pratiques, disons, répréhensibles.
Une information judiciaire vient d'être ouverte par le parquet de Paris contre Cœur Assistance, une société créée il y a 2 ans et demi et qui proposait contre un abonnement de 800 francs par an une assistance complète aux malades cardiaques. Cela comprenait un check-up, un dépistage très soigné et surtout des moyens d'intervention de première qualité pour soigner les malades chez eux en cas d'urgence. 475 personnes se sont ainsi abonnées. En fait, ces services annoncés à grand renfort de publicité n'ont jamais existé. C'est pourquoi en juin 75, le docteur Naban, le fondateur de Cœur Assistance, quittait la société et dénonçait son manque de sérieux. L'un des abonnés de Cœur Assistance est même décédé en juillet 76 et dans ce cas précis, le docteur Naban a mis en cause la responsabilité de la société.
La société, dans cette archive de juin 1977, c'est celle qu'il a créée avec le docteur Naban 3 années plus tôt. Le docteur Naban, c'est celui qui est supposé sauver les patients malades du cœur. Et Tapi, c'est celui qui doit s'occuper de tout le reste pour faire en sorte que l'entreprise fonctionne et que les patients soient sauvés. Sauf que Tapi n'a pas les moyens financiers de ses ambitions. Il ne s'occupe pas de tout le reste, loin s'en faut. Chez Cœur Assistance, en effet, il n'y avait pas assez de médecins. Un seul centre d'assistance était en service au lieu des 3 promis sur la publicité, ce qui fait que la sécurité des patients n'était absolument pas assurée. C'est comme si Bernard Tapie avait adopté par avance le mantra des entrepreneurs de la Silicon Valley « Fake it until you make it », autrement dit, fais semblant de pouvoir délivrer un service jusqu'à ce que, un jour peut-être, tu puisses effectivement délivrer ce service.
Fake it till you make it.
Cœur Assistance sauvait parfois des gens, ceux qui appelaient au bon moment quand un médecin était disponible et qui ne vivaient pas trop loin de l'un des centres d'intervention. Mais si on faisait une crise cardiaque, composer le 15 était une bien meilleure idée que de les appeler. C'est en se rendant compte que cette situation n'était pas prête de s'améliorer que le docteur Naban avait quitté ce navire qui prenait l'eau par bâbord et par tribord. Tapi, lui, avait continué à accepter l'échec des abonnés en espérant que les problèmes de sa société allaient finir par se résoudre et que, un jour, il pourrait effectivement sauver des vies. Problème, en attendant de pouvoir vraiment les sauver, ces vies, il allait falloir continuer à faire semblant tout en diffusant de vrais faux reportages vantant les mérites de sa société sur la première chaîne nationale et dans lesquels Tapi jouait le rôle d'un infirmier.
Ici Cœur Assistance, j'écoute.
Mon mari vient d'être pris de violentes douleurs à la poitrine. Ça vient de lui prendre devant la télé. Il s'est alité.
Cœur Assistance fonctionne comme un SOS téléphonique cardiaque. Un poste de réception centrale à Neuilly reçoit tous les appels et lance ses équipes composées d'un médecin réanimateur et d'un assistant technique sur les lieux des appels.
Nous vous envoyons une équipe immédiatement.
L'équipe de secours se déplace à moto, le matériel de réanimation se trouvant dans la remorque.
En janvier 1976, une jeune femme contacte le standard de Cœur Assistance. Elle a besoin d'aide en urgence car son amant est atteint de tous les symptômes de la crise cardiaque. Tous les deux se trouvent alors dans un appartement du 16e arrondissement de Paris, non loin des meilleurs hôpitaux. Mais elle a tout de même préféré contacter Cœur Assistance plutôt que le SAMU, car elle a trouvé dans le portefeuille de son amant une carte avec le numéro de la société à composer précisément en cas de crise cardiaque. Une voiture de Cœur Assistance est alors dépêchée sur place avec du matériel de secours et un employé arrive rapidement sur les lieux. Problème, cet employé n'est pas médecin et il ne sait pas utiliser le défibrillateur. Le vrai médecin n'arrive lui que 20 minutes plus tard, c'est-à-dire trop tard, le patient est déjà mort. Sur cette affaire, Bernard Tapie ne voit pas le problème. Il ne considère pas non plus avoir fait de la publicité mensongère en promettant de sauver des patients.
Donc l'information auprès du public pour pouvoir éviter de perdre du temps, c'est une des missions de Cœur Assistance. C'est pas seulement d'envoyer des équipes, c'est d'éduquer le public, de le prévenir sur la symptomatologie cardiaque, de manière à ce qu'il ne perde pas de temps avant d'appeler un médecin.
Vous estimez donc qu'entre la documentation et la réalité, il n'y a pas de distorsion?
Il y a des différences. Il y a des différences parce que sur une documentation, ça n'est que les faits retranscrits de nos ambitions, ce n'est que le fait retranscrit de nos désirs. Puis il s'avère qu'entre le désir et la réalité, il y a toujours un pas. Mais si vous voulez, la documentation, c'est un élément d'information globale. Ce qui compte, c'est la convention que les gens signent, c'est-à-dire l'engagement que Cœur Assistance prend. Et sur cet engagement, il n'y a absolument rien de changé du tout.
Ah, donc finalement, après la mort d'un homme dans la salle de bain de sa maîtresse, la mission de Cœur Assistance a changé. Il ne s'agit plus de sauver des vies, mais d'informer sur les risques des pathologies du cœur. Dans le monde des startups, on appelle ça pivoter, quand l'entreprise change de mission en cours de route. Sauf qu'en général, les entreprises communiquent sur leur nouvelle mission. Et on peut imaginer que si la jeune femme avait été au courant de cette nouvelle orientation de l'entreprise, si elle avait su que Cœur Assistance n'allait pas sauver son amant, mais lui prodiguer des conseils santé, elle aurait peut-être composé le numéro de l'hôpital au moment de la crise cardiaque. Cet épisode, médiatisé à l'époque, est bien connu et documenté. Pourtant, dans la série que Netflix a consacrée à la figure de Bernard Tapie, les scénaristes ont préféré édulcorer ce moment de la vie de leur héros. Et dans cette version de la vie de Tapie, eh bien, il n'y a pas de mort.
Il l'emmène à l'hôpital américain. C'est bon, hein, il est tiré d'affaire. T'as conscience de ce qui vient de se passer, là ? À 5 minutes près, c'était fini. Hein. Fini, Bernard. Putain, t'es un dingue. C'est un putain de dingue. Je sais même pas comment j'ai pu être aussi con pour te faire confiance.
Il est vrai qu'au début de chaque épisode, un carton prend bien soin d'avertir le téléspectateur qu'il s'agit d'une fiction biographique inspirée, mais seulement inspirée, de la vie de Bernard Tapie. Mais pourquoi les scénaristes ont-ils choisi d'édulcorer le moment précisément où Tapie est responsable de la mort de quelqu'un ? Cela semble en effet un bon élément dramatique pour une série télévisée. À mon avis, ils l'ont fait pour cette raison très simple, Bernard Tapie est sympa. Plus que cela, il est charismatique et il a fait de sa vie un roman. Alors on préfère rêver sur sa trajectoire, croire en lui et l'écouter parler, sans s'attarder sur ce qui fait moins plaisir dans sa personnalité. En réalité, et c'est probablement l'une des grandes caractéristiques de notre époque, nous préférons la séduction du discours à la réalité des faits. Ceci explique notre adage et le titre de cet épisode, au mec sympa, tout sera pardonné. Jean-Pierre Winter, vous êtes psychanalyste. Vous avez écrit il y a quelques années un livre intitulé « Les hommes politiques sur le divan » dont l'un des chapitres est précisément consacré à Bernard Tapie. De manière générale, est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'on pardonne davantage aux personnes qui ont une personnalité sympathique parce qu'on a tendance à les aimer spontanément ?
On a tendance à aimer spontanément les gens qui nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Alors, c'est vrai que notre époque est particulièrement friande de personnages qui entraînent la sympathie du public et dissimulent derrière cette sympathie la face noire de leur personnalité. Je pense par exemple à l'abbé Pierre, mais à Trump aussi, plus précisément d'ailleurs à Vance. Des gens qui paraissent issus de la misère ordinaire, disons, et qui s'élèvent à la dignité du héros national en dissimulant ou en se servant de cette notoriété soudaine et voulue pour masquer leur véritable pulsion et leur véritable désir.
Est-ce que c'est d'ailleurs un type psychologique ou psychanalytique que de cacher qui on est vraiment derrière une façade qui est une façade de sympathie où les personnes disent à l'autre précisément ce que l'autre a envie d'entendre sans forcément croire à ce qu'ils disent ?
Oui, ça s'appelle la perversion.
Comment est-ce qu'on la définit ?
Eh ben, on la définit comme une tentative de détournement des pulsions de sociabilité au service du narcissisme et de la personne propre.
Alors par exemple, qu'est-ce que vous pensez qui pouvait se passer de façon idéale typique dans une personnalité comme dans celle de Bernard Tapie, étant donné le récit qu'on a fait aussi de Cœur Assistance, ce moment où, en fond, la négligence de Bernard Tapie a conduit à la mort de quelqu'un ?
De mémoire, comme ça, j'avais un peu étudié son histoire dans sa biographie qui s'appelait « Gagné » et dans les journaux. Et tout ça montrait bien que dès l'enfance, il avait acquis une certaine capacité, disons, à tromper son monde et à ne pas tenir compte de la décence morale minimale. Donc, par exemple, il n'a pas hésité à détourner la confiance que son père avait en lui, en lui faisant croire qu'il allait au collège. Et en fait, il remplissait des bulletins d'absence qu'il signait dont il faisait croire que c'était son père qui les signait. Et quand son père va le punir, il va faire mine de croire qu'il est puni parce qu'il n'a pas été à l'école, en oubliant complètement qu'il a été puni pour les faux en écriture que déjà à ce moment-là, il a fait.
Est-ce que vous pourriez le comparer à quelqu'un comme François-Marie Bagné, par exemple ?
Non, pas du tout. Parce qu'il y a chez François-Marie Bagné une forme d'authenticité et d'une certaine manière de franchise. Je dis pas que c'est un personnage particulièrement moral, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un de sympathique, justement. C'est pas quelqu'un qui dissimule. Il ne dit pas tout, et ne pas dire tout, ça n'est pas forcément dissimuler qui on est, comme c'est le cas de l'abbé Pierre, par exemple.
Mais Bernard Tapie, il était peut-être authentiquement sympathique.
Ben, authentiquement sympathique, ça dépend de ce qu'on attend de lui. Quand il est à la tête de l'OM et qu'il fait gagner l'OM, et puis qu'ensuite on apprend que dans un autre match, il y a eu un trucage et qu'il n'y est pas pour rien, eh ben, il n'est pas authentiquement sympathique. Par contre, quand il a des dettes aux impôts ou au Crédit Lyonnais ou je ne sais où, là, il est sympathique parce que c'est le panache des grands bandits, quoi. Pour revenir à votre question, c'est quoi un homme sympathique ? Pourquoi on a une telle fascination pour les grands criminels, par exemple ? Pourquoi on se gave de romans policiers, de films policiers, etc. ? Parce que ce sont des personnages qui, imaginairement, réalisent ce que nous, on s'interdit de faire. Et donc, on admire cette capacité à transgresser les lois communes de la vie sociale.
Bernard Tapie est né le 26 janvier 1943 et il a grandi dans la banlieue parisienne, au Bourget très exactement. C'est une commune qui se trouve à côté de la Courneuve, mais qui n'est pas tout à fait la Courneuve. Autrement dit, la banlieue où vit la famille Tapie n'est pas la plus dure des banlieues, de même que l'enfance de Bernard n'est pas aussi pauvre qu'il l'a laissé entendre. Si l'on remonte deux générations au-dessus, son arrière-grand-père était paysan dans l'Ariège et son grand-père était cheminot. Son père, lui, était un petit ouvrier, pas riche, mais en mesure de s'offrir de belles voitures de temps en temps et de partir un peu en vacances en famille. Pour le reste, la famille Tapie vit d'abord dans un 20 mètres carrés au Bourget, avant de déménager dans un pavillon à Champigny-sur-Marne en 1960. Le petit Bernard vit alors beaucoup dehors. Avec ses copains, ils vont voir décoller les DC-3 de l'aéropostale et les constellations d'Air France à l'aéroport du Bourget. C'est une bande de gamins qui jouent dans la rue, se retrouvent au stade, grimpent aux arbres, se baladent partout à vélo. À l'école, en revanche, il ne se sent pas tellement à sa place. En dépit d'une mémoire prodigieuse, ce n'est que de justesse qu'il passe en classe de 6e. Il faut dire qu'il ne supporte pas l'autorité. Impertinent, adepte de l'école buissonnière, il ne semble pas avoir envie de faire des études longues et il est donc orienté vers le collège technique d'Aubervilliers où il passe l'essentiel de son temps sur les terrains de handball. On le retrouve ensuite inscrit à l'école d'électricité industrielle de Paris où il ne mettra pas beaucoup plus les pieds. La drague, c'est l'une de ses activités principales et il s'aperçoit vite que dans ce domaine, il a beaucoup de succès. D'ailleurs, s'il peut mêler l'utile à l'agréable, ce n'est pas pour lui déplaire. Et c'est ainsi qu'il arrive à convaincre une jeune coiffeuse du côté du canal de l'Ourcq de faire en sorte qu'il soit toujours parfaitement coiffé. En réalité, il a trouvé son vrai talent et ce talent, c'est séducteur. Il en fera son métier. Car sa séduction ne se limite pas aux filles. Par exemple, quand il se fait arrêter adolescent pour avoir conduit sans permis, il fait copain-copain avec les gendarmes. Et puis, tous les gérants de discothèques où il se rend le laissent entrer sans payer, parce qu'il danse bien et qu'il est drôle, et en plus, il ne cherche jamais la bagarre. Bref, Tapie, dès le début, c'est une star.
Monsieur Bernard Tapie, bon, alors on va le dire tout de suite, vous êtes un personnage exceptionnel.
Bon, ben je m'en vais, ça va. Voilà. Salut. Salut. Comment on fait pour le cacher ?
Je le dis parce que je le pense, mais surtout parce que vous le pensez vous-même sans doute, et que j'ai aucune raison de vous contrarier. Ouais. Au reste, d'ailleurs, l'adjectif exceptionnel n'implique aucune appréciation qualitative. Je veux dire par là que qu'on vous trouve exceptionnellement sympathique ou exceptionnellement antipathique, vous n'en demeurez pas moins exceptionnel par rapport au monde qui nous entoure, monde dont vous constituez donc, n'ayons pas peur des mots, une exceptionnelle exception. Monsieur Tapie, vous êtes une grosse vedette, on pourrait presque dire une star. Après avoir été seulement apprécié des connaisseurs pendant quelques années, depuis 2 ans vous avez littéralement explosé au sein des médias et donc fatalement dans le cœur des populations. La consécration a eu lieu à la télé, et de ce jour, si j'ose cette plaisanterie facile qui ne doit pas être nouvelle pour vous, je dirais qu'après avoir été tapis dans l'ombre, vous êtes tapis au soleil.
Oui, je préfère tapis, c'est partout.
Ah oui. Mais ça, je voulais laisser faire. Fallait que je vous en laisse un peu.
Mais moi, j'ai pas de paplard, je vous signale.
Oui, oui, oui.
Alors on sent une énorme confiance en soi de Bernard Tapie qui improvise dans cette émission de radio sans aucune peur, sans aucun tract. Est-ce que vous diriez que ce sentiment de confiance en soi, c'est ça aussi qui est attirant chez Bernard Tapie, qui fait qu'on a envie d'aller vers lui ?
Séduire, ça veut dire quoi ? Séduire, ça veut dire détourner. Étymologiquement, c'est détourner l'autre de son chemin. Donc quand on arrive à détourner des foules entières de leur chemin, on est un séducteur. Et on fait exception, parce que des êtres qui arrivent à faire ça, bienfaisants ou malfaisants, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, il a raison, l'humoriste. Il est exceptionnel. C'est-à-dire que à lui tout seul, il représente un idéal pour chacun d'entre nous qui sommes globalement de merveilleux petits névrosés, mais qui n'arrivons pas à nous hisser à ce niveau d'amour de nous-mêmes que nous appelons chez lui certitude ou assurance.
Mais qu'est-ce que ça nous apporte à nous, au fond, de nous laisser finalement envoûter par ce genre de personnage ? Parce que s'il arrive à séduire les foules, c'est que les foules veulent être séduites.
Ben, comme disait Hannah Arendt, ce que ça nous apporte, surtout quand on est en foule, c'est que ça nous dispense de penser. Et il n'y a rien qui nous fait plus horreur que de penser. N'importe qui prendrait l'histoire de Tapie un petit peu... en pensant à ce qu'il a fait, son histoire sur le cœur, sur l'OM, sur la banque, etc. S'il pensait, s'il réfléchissait, évidemment qu'il serait moins séduisant. Eh ben, il y a des êtres qui ont compris qu'ils vont pouvoir facilement rencontrer des gens qui seront soulagés de ne pas avoir à penser ni à eux-mêmes ni aux autres.
Ce que la personnalité de Tapie fait à ses interlocuteurs, c'est qu'ils sont soufflés par lui. Jacques Chancel n'échappe pas à cette règle.
Aujourd'hui, Bernard Tapie, avec nous, l'homme qui vole au secours des entreprises en difficulté, le repreneur d'entreprises, et je dois dire, je suis assez soufflé. Moi, je vous le dis alors d'entrée, parce que je vous connais depuis un certain nombre d'années. Au début, je me disais, il en fait un peu trop. Où va-t-il ? C'est un bluffeur. Puis, pac, je suis bluffé. Vous avez commencé de quelle manière, Bernard Tapie ?
Bah, j'étais conseil en entreprise. Et vous savez qu'en France, il y a un dicton qui dit le conseiller n'est pas le payeur. Ouais. Et fort de ça, les trois quarts du temps, les différentes mesures qu'on préconisait ou qu'on conseillait étaient jamais appliquées. Et j'avais peu de chances de les voir appliquées, dans la limite où ça remettait en cause plein de situations déjà connues, figées. Et il y a un moment où on a vraiment envie de voir si nos idées, si ce que l'on pense, si ce que l'on croit... est capable d'apporter des solutions concrètes. Donc en 77, j'ai décidé de me franchir le pas et de devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui.
Mais vous avez beaucoup cherché pour en arriver là. Vous avez écrit des chansons, vous avez essayé d'entrer dans le spectacle. En fait, vous avez toute votre vie, vous n'êtes pas si vieux, quel âge avez-vous ?
39.
39 ans, vous avez essayé d'être Bernard Tapie.
Je crois que j'ai un profil avec un tas de défauts et la contrepartie de ces défauts qui
s'accommode. Vous auriez pu être comédien d'ailleurs.
Oui, qui s'accommode assez bien du métier que je fais aujourd'hui et tout ce que j'ai fait périphérique, que ce soit la course automobile, que ce soit la chanson, aujourd'hui trouve parfaitement ses contreparties positives. Vous savez, dans le sport, on apprend plein de choses, notamment à respecter les victoires des autres. Dans le métier artistique, on apprend à affronter parfois des situations difficiles comme la scène, comme le public, comme les micros. Toutes ces choses m'ont apporté aujourd'hui des plus qui me permettent de faire encore mieux.
Jean-Pierre Winter, qu'est-ce que vous entendez derrière cette archive ?
J'entends une succession d'aveux absolument incroyables et de déni de réalité. En fait, quand il dit « les conseillers ne sont pas les payeurs », ben c'est exactement ce qu'il va faire tout le reste de sa vie. Il va passer sa vie à être le conseiller qui ne sera pas le payeur. Et il ne payera effectivement pas. Sauf que il y a une limite. Et la limite, il l'a rencontrée. Comme la rencontre la plupart des pervers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et ça s'arrête quand il peut plus faire le beau. Quand il peut plus se servir de sa séduction, quand ça marche plus, quand il peut plus séduire même des Chancel, des Mitterrand, etc. Et à un moment donné, ça marche plus.
Le père de Bernard Tapie est un homme réservé, qui avait tendance, dit-on, à courber l'échine devant ses maîtres, c'est-à-dire ses employeurs. Bernard Tapie aurait souffert dans sa jeunesse de ce qu'il interprétait comme une soumission de son père face au monde, lui qui justement ne supportait pas l'autorité ni la soumission à qui que ce soit. À cela, il faut ajouter que le père de Tapie, faible avec les forts, semblait fort avec les faibles puisqu'il giflait ses enfants. Bernard est frappé alors qu'il est tout petit, mais aussi plus tard, alors qu'il est déjà un adolescent, et il semble que cela, il ne l'ait jamais pardonné à son père. Jean-Pierre Winter, comment est-ce que vous voyez, à travers la biographie et ce que vous connaissez bien sûr de Bernard Tapie, sa relation avec son père et cette idée, au fond, qu'il y avait une forme de mépris pour l'homme réservé qu'il était?
Je dirais, son père et la relation qu'il avait avec son père étaient certainement très dures et probablement assez traumatiques. Mais il ne faut pas être mécaniste dans ces affaires-là. Il y a des tas de gens qui ont été malmenés par leur père, frappés, éventuellement, humiliés. Mais ils s'en sont pas tous sortis de la même manière. C'est pas mécanique. C'est la raison qu'ils se donnent et à laquelle ils voudraient qu'on adhère pour expliquer pourquoi il est, en quelque sorte, revanchard. Mais prenez un exemple qui m'est familier, simple. Freud raconte dans ses mémoires une scène au cours de laquelle son père est humilié par un antisémite à Vienne, qui l'oblige à descendre du trottoir, qui jette son chapeau par terre, et le jeune Sigmund assiste à une scène qui lui paraît absolument humiliante, où son père ramasse son chapeau et part sans rien dire. Ben, il n'est pas devenu pour autant quelqu'un qui s'est alarmé et qui est avoué à son père une haine éternelle. Il en a fait quelque chose d'autre.
Toute sa vie, Bernard Tapie s'est appuyé sur ses origines modestes pour légitimer son parcours de battant. Venu du dehors du sérail, il a insisté sur sa différence pour mettre en avant sa fulgurante ascension sociale, celle d'un vrai transfuge de classe.
Vous n'êtes pas né dans les ors, dans les draperies.
Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Donc vous avez fait votre chemin tout seul.
Oui, mais c'est pas... Je dirais que c'est pas ni un avantage, ni un inconvénient. Moi, j'ai connu des gens...
C'est une coquetterie pour vous, quand même.
Non, parce que j'ai vraiment connu des gens formidables qui étaient des fils de nantis. J'ai connu des cloches qui étaient fils d'ouvriers. Et j'ai connu le contraire. Je crois qu'il y a vraiment pas de distinction à faire de ce côté-là. Et chacun, il y a un avantage et un inconvénient. Je crois que c'est très difficile d'arriver à réussir sa vie quand on est le fils d'un nanti, parce qu'on s'apprend plus tard à sortir un peu les griffes et à essayer de montrer qu'on existe. Quand on est issu d'un milieu ouvrier, on est très vite confronté à des situations conflictuelles qui, en fait, vous donnent quelques petits plus supplémentaires.
Enfin, aujourd'hui, Bernard Tapie, vous avez quand même toute la panoplie du nabab, hein. La Rolls.
Non, je n'ai pas la Rolls.
Mais c'est fini. C'était avant, parce que vous étiez pauvre.
Oui, c'était à l'époque où j'avais peur qu'on ne se rende pas compte que je marchais bien.
L'avion, le bateau, la vie claire, et puis même le vélo. Ça ne vous suffisait pas.
Jean-Pierre Winter, le fait que Tapie soit un transfuge de classe et qu'il ait beaucoup insisté là-dessus, est-ce que ça vous semble important pour le comprendre dans son parcours, dans sa trajectoire ?
D'un côté, il dit « ça n'a pas d'importance ». Et puis, dans la dernière partie, il dit « oui, ben, c'est un petit plus d'être issu d'une famille modeste ben, ». C'est ni un plus ni un moins, ça dépend ce qu'on en fait. Prenez quelqu'un comme Annie Arnaud, par exemple. Elle vient d'un milieu à peu près équivalent, et puis elle finit avec le prix Nobel de littérature. Encore une fois, il n'y a rien de mécanique.
Est-ce que vous pensez que quand il énonce cette vérité, ou cette contradiction de la vérité, ce mensonge, est-ce que vous pensez qu'il y croit ? Est-ce que vous pensez qu'il fait partie de ces personnes qui croient toujours à ce qu'ils disent, même s'ils se contredisent dans la même phrase ?
Alors ça, c'est très intéressant par rapport à la question de la perversion. Parce que les pervers, c'est des gens qu'on ne peut pas attraper, parce que quand on essaie de raisonner avec eux sur un certain plan de ce qu'il raconte, il vous renvoie immédiatement sur une autre face du discours en vous faisant perdre les pédales d'une certaine manière. Vous ne savez plus avec qui vous parlez. Et donc, il y a toujours ce double discours, cette espèce d'équivoque systématique qui fait que on n'a pas affaire à quelqu'un qui parle justement pour vous dire ce qu'il pense vraiment, à supposer d'ailleurs qu'il pense vraiment. On a affaire à quelqu'un qui se sert de ce qu'il est en train de vous dire en repérant les effets que ça a sur vous et qui change son discours en fonction des effets qu'il croit avoir repérés dans votre écoute.
Il n'est pas si facile de distinguer clairement les différents moments de la vie de Bernard Tapie. Il faut dire qu'il fait mille choses en même temps et qu'il a tendance à passer d'un projet à l'autre, quitte à se désintéresser, au fur et à mesure, de ses projets précédents. Toujours est-il que dans sa jeunesse, il a été successivement, ou parfois même en même temps, plusieurs choses. D'abord, il a été chanteur. On lui doit au total 3 disques jusqu'en 1966, avec 12 chansons, dont 11 écrites par lui-même, et un passage à la télé. Des télés, justement, il en vend, dans son magasin TV Est, vers la gare de l'Est à Paris, mais sa gestion est désastreuse, et en plus, il s'ennuie. C'est l'époque où il sort beaucoup dans les cercles de jeu, où il gagne pas mal d'argent aux tables de poker et en perd encore davantage. Mais au moins, ces soirées sont une porte d'entrée pour rencontrer des personnes qui pourront lui servir plus tard, qu'il soit caïd ou homme d'affaires, ou parfois un peu les deux. Mais les affaires ne vont pas très fort. Pire, il se retrouve condamné pour abus de biens sociaux, lui qui n'hésite pas à demander à ses employés de venir jardiner chez lui et qui fait refaire sa cuisine par les menuisiers de l'une de ses sociétés. Bien qu'il roule déjà en voiture de luxe, il ne paye pas ses impôts, ce qui va lui causer quelques déboires avec le fisc. Son biographe, Éric Routier, raconte que la gendarmerie l'a arrêté un jour pour défaut de vignette sur sa Lamborghini jaune. Un oubli fâcheux qui va conduire l'administration fiscale à enquêter plus avant sur ses affaires, qui étaient bien loin d'être toujours en règle. Des affaires pourtant de plus en plus grosses, qui vont faire de Bernard Tapie une star du business et lui faire abandonner temporairement sa carrière de chanteur. Enfin, il pouvait quand même chanter à l'occasion, si on lui demandait gentiment.
On va chanter ensemble, je vais démarrer, et puis vous allez suivre. Allez, on y va.
J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire ton numéro.
Tapie n'a pas totalement abandonné l'idée qu'il sera un jour un artiste. Mais pour l'instant, il utilise son charme sur le chemin qui lui réussit le mieux, celui du monde de l'entreprise. Pour un franc symbolique, il rachète des sociétés en difficulté et les revend ensuite quelques millions de plus. Mais comment ce petit gars du Bourget a-t-il fait pour s'enrichir au point d'acheter un jour un hôtel particulier rue des Saints-Pères à Paris et l'un des plus grands voiliers du monde? C'est ce que nous allons voir au cours du prochain épisode.
J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir un